Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est un voyage d'un siècle dans le temps que nous vous proposons cette semaine. La musique qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires, interprétée par l'orchestre du trompettiste Wynton Marsalis, est l'œuvre d'un pianiste de la Nouvelle-Orléans qui, dans les années 1920, s'était autoproclamé inventeur du jazz. S'il fut en effet l'un des premiers à insuffler un swing particulier dans la culture afro-américaine de l'époque, il ne fut pas le seul. King Oliver ou Louis Armstrong, par exemple, avaient eux aussi donné une couleur spécifique à une tradition néo-orléanaise ancestrale, celle des fanfares qui déambulaient dans les rues à chaque événement majeur de la communauté noire. Mais n'allons pas trop vite. Pour bien comprendre l'importance de cette révolution artistique et sociale, il nous faut remonter à la fin du 19e siècle. Alors oui, le son de cette archive est quelque peu poussiéreux, mais vous écoutez un document de 1898. Il s'agit d'un cakewalk, interprété par Joseph Cullen et William Collins. Le cakewalk était un genre musical, mais aussi une danse, que les Noirs d'Amérique avaient créée pour se moquer des esclavagistes blancs lors des bals populaires dans le sud des États-Unis. Progressivement, ces cakewalks évolueront vers une forme d'expression plus structurée qu'on appellera le ragtime. Nous sommes maintenant en 1916. Le ragtime est alors le signe avant-coureur d'une révolution musicale qu'on appellera bientôt le jazz. Pour le moment, la tonalité un peu militaire manque encore de swing, mais cette archive révèle l'évolution progressive d'un patrimoine sonore hérité de l'esclavage, quand blancs et noirs partageaient sans s'en rendre compte, et au prix de violentes confrontations, leur héritage culturel rythmique et harmonique. Thank you. Vous avez sans doute reconnu ce grand classique du début du XXe siècle. Il s'agit d'une œuvre signée Scott Joplin, intitulée The Entertainer, et qui a popularisé le style ragtime avant l'apparition des premières notes de jazz. Jelly Roll Morton, dont nous parlions en début d'émission, a forcément entendu ce titre il y a un siècle et s'en est forcément inspiré. C'était en tout cas la conviction du regretté pianiste Joe Semple, qui le 9 juillet 2013, à Montreux en Suisse, avait raconté l'histoire de son illustre prédécesseur lors d'une masterclass pleine d'enseignements.
Of course, the music that followed was the jazz out of New Orleans.
Évidemment, la musique qui a suivi le ragtime de Scott Joplin fut le jazz de la Nouvelle-Orléans et notamment celui du pianiste Jelly Roll Morton.
First of all, he was a brilliant pianist and composer of jazz music.
C'était un musicien très brillant, un compositeur émérite. Il était très bavard, peut-être un peu trop, car Duke Ellington ne l'appréciait guère. Jelly Roll Morton avait décrété qu'il était l'inventeur du jazz. Il est vrai qu'il savait jouer le jazz avec brio, mais aussi le gospel, le blues. Il chantait également. Il a eu une influence majeure sur tous les musiciens de cette époque aux États-Unis.
One of his compositions I have always loved and is titled Shreveport Stomp.
L'une de ses compositions célèbres, dont je suis fan, s'appelle Shreveport Stomp. À travers ce titre, on entend déjà les prémices d'un genre musical qui sera développé par Charlie Parker 30 ans plus tard, le bebop. Jelly Roll Morton était vraiment un pionnier qui a tracé la route pour de jeunes virtuoses qui sont apparues dès 1938. C'était un artiste en avance sur son temps. Il jouait la rythmique d'une main et la mélodie de l'autre. C'était époustouflant. En tant qu'étudiant, je me passionnais pour ce musicien et j'essayais de reproduire son répertoire au piano. Mais comme je suis contemporain de Bud Powell et donc des musiciens de bebop, c'est-à-dire les années 40, j'avais énormément de difficultés à m'adapter au jeu d'un vétéran comme Jelly Roll Morton, né, dit-on, en 1885 ou 1890. Les historiens se chamaillent beaucoup sur sa date de naissance. Je savais que ma main gauche ne serait pas assez rapide pour interpréter ce type de jazz ancestral. Voici donc Shreveport Stomp de Jelly Roll Morton, mais je vais ralentir le tempo de façon à ce que vous puissiez apprécier l'inventivité de ce musicien et cette manière unique de converser avec l'auditoire. Je précise au passage que Shreveport Stomp est une ville de Louisiane, au nord de la Nouvelle-Orléans. Il n'y avait pas beaucoup de musiciens là-bas, mais Jelly Roll Morton a dû s'y rendre pour se faire un peu d'argent.
That Jelly Roll went there just to make some money. This is titled Shreveport Stomp.
La musique de Jelly Roll Morton a résisté à l'érosion du temps. Les pionniers du jazz sont toujours aujourd'hui des références et Joe Semple, né en 1939, avait une admiration sans bornes pour ses aînés. Lors de cette fameuse masterclass de juillet 2013 à Montreux, il avait voulu rendre hommage à un autre grand personnage des années 20, 30 et 40.
One of my all-time great pianists, my favorite, was Fats Waller.
L'un de mes musiciens préférés s'appelle Fats Waller. C'était un showman hors norme. Il pouvait jouer du piano, chanter, raconter des blagues simultanément.
Play the piano and tell jokes at the same time. I'm trying to think which Fats Waller song I would like to play at the moment that demonstrates.
Je me demande quel titre de Fats Waller je vais vous jouer pour que vous puissiez réaliser combien cet homme était exceptionnel. Je pense que Jitterbug Waltz ferait l'affaire. Savez-vous ce que veut dire Jitterbug?
A swing dancer.
Il s'agit d'une appellation qui désignait les danseurs de swing, car à cette époque, dans les années 20, on dansait beaucoup sur la musique des big bands. C'était l'âge d'or du jazz. Les grands orchestres pullulaient aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Il y avait même des concours de danse qui mettaient en valeur les couples les plus aguerris. C'est ce qu'on appelait les Jitterbug. Monsieur Fats Waller en a fait une valse, la Jitterbug Waltz.
Mr. Fats Waller wrote a waltz, and he titled it Jitterbug Waltz.
J'espère que je vais m'en souvenir.
Jitterbug Waltz.
Voici donc. Le jazz est donc né dans les années 1920 d'un mariage improbable entre le ragtime, les fanfares militaires, les danses cakewalk et les harmonies européennes classiques. Un sacré cocktail que la France découvrira en 1917 lorsque l'orchestre du 369e régiment d'infanterie américain parviendra sur les côtes bretonnes pour encourager les forces alliées à mettre fin à la Première Guerre mondiale. C'est le lieutenant James Reese Europe qui conduira cet orchestre militaire nommé les Harlem Hellfighters et fera entrer les premières notes de jazz sur le vieux continent. Certes, il ne s'agit pas encore d'un swing savant que popularisera Louis Armstrong 10 ans plus tard, mais les Français accueillent alors avec bienveillance cette musique récréative qui annonce de grands lendemains. À Brest et à Nantes, les musiciens du 369e régiment d'infanterie américain donneront quelques concerts chaudement acclamés et découvriront que la peau noire en France n'est pas un sujet majeur. Certes, le racisme existe dans la population française et la puissance coloniale déploie son autoritarisme sur les terres africaines. Mais pour un Afro-Américain, la tempérance des Français à son égard vaut largement mieux que les coups, les chiens et les humiliations quotidiennes de l'Amérique blanche. Ainsi, nombre de musiciens noirs américains trouveront en France un espace d'expression plus libre et réconfortant. Le regretté pianiste Randy Weston se produisait souvent en France car il y percevait la générosité d'une nation plus tolérante et ouverte sur le monde. Il y avait beaucoup d'Afro-Américains en France qui appréciaient la culture, le style de vie, le bon goût de ce pays. Et puis il y a un homme, James Reese Europe, qui fut le premier Afro-Américain à faire découvrir le jazz aux Européens au tout début du XXe siècle. Il existe donc un lien historique entre nos deux continents. Prenez Sidney Bechet, Duke Ellington, ils sont tous venus ici, et si la musique est bonne, leur esprit traverse les décennies. Pourquoi ces échanges ont-ils eu lieu? Je ne sais pas. Je dirais juste que la force expressive de la musique est universelle, peut vous faire voyager, et parfois peut même apaiser vos souffrances. Lorsque vous écoutez Josephine Baker, Louis Armstrong, Lester Young ou Ella Fitzgerald, cela vous fait frissonner sonner, vous apaise. Personnellement, c'est le pianiste Art Tatum qui me donne de l'énergie. C'est bien la preuve que la musique est intemporelle, qu'elle est une force spirituelle qui provient des rythmes africains, du continent africain. Le pianiste Art Tatum, que Randy Weston mentionnait il y a un instant, fit lui aussi partie des pionniers du jazz au début du XXe siècle. Et n'oublions pas le maestro Duke Ellington, dont Randy Weston était l'un des disciples. J'ai bien connu Duke Ellington, il fait partie de mes principales influences et je le respecte profondément parce que mes parents m'ont toujours dit « Tes ancêtres ont été amenés contre leur gré aux États-Unis en tant qu'esclaves. Ils étaient africains avant tout. Ils ont subi l'esclavage, le racisme, mais ils ont résisté et ont permis à des enfants de vivre. Tu n'as donc pas le droit d'être irrespectueux vis-à-vis de ces gens et de ce patrimoine en refusant ton identité africaine. » Les États-Unis ont accueilli des Chinois, des Italiens, mais à cause des relents colonialistes de notre société, on nous a refusé notre identité africaine. Mais il suffit d'écouter notre musique pour comprendre que nous sommes africains. Nous sommes partout, au Brésil, à Cuba, au Venezuela, et le rythme subsiste. Duke Ellington savait cela. Il jouait du piano avec un esprit africain. Le son, les couleurs de son orchestre étaient africains. C'était un amateur d'art africain. Duke Ellington savait parfaitement d'où il venait. Tous les musiciens du début du XXe siècle aux États-Unis avaient une profonde connaissance de leurs origines africaines. U.B. Blake, qui était un pianiste de ragtime, avait parfaitement identifié ses ancêtres. Ces gens savaient, et leur musique a conservé l'essence du peuple afro-américain. C'est le pianiste U.B. Blake que vous écoutez actuellement, enregistré en 1921. Il fut sûrement l'un des artistes essentiels dans la jeunesse du jazz. Il fit le pont entre le ragtime des origines et le swing développé au XXe siècle. Ainsi, tandis qu'une révolution musicale transformait le paysage sonore américain, l'Europe, et notamment la France, restait encore très timide et académique dans leur approche d'une culture bientôt transatlantique. Il suffit d'écouter cet enregistrement réalisé en 1928 à Paris pour comprendre que le vocabulaire jazz américain n'est pas tout à fait assimilé. Clair que les flonflons des balmusettes impriment encore sérieusement les tentatives swing des musiciens français durant les années folles. Ce simple constat historique explique à lui seul les différences culturelles qui prévalent toujours aujourd'hui entre un jazzman européen et un jazzman américain. Le pianiste panaméen Danilo Pérez, né en 1965, s'était amusé sur scène en 2017 à célébrer un siècle de jazz en saluant la mémoire de quatre icônes de l'épopée des musiques noires, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Mongo Santamaria et Ella Fitzgerald. En travaillant sur leur répertoire et en écoutant des dizaines d'œuvres jazz de tout pays, il perçut très clairement ce fossé culturel entre les Afro-Américains et les Européens.
I feel the difference, especially in the groove.
J'entends la différence. Il y avait notamment plus de groove, plus d'intensité rythmique et de couleurs sonores dans la musique de King Oliver ou de Louis Armstrong. J'aimerais cependant attirer votre attention sur un musicien panaméen célèbre dans les années 20. Il s'appelait Louis Russell. Il a d'ailleurs joué avec Louis Armstrong à l'époque. Il avait son propre big band. Et je regrette que l'on ait oublié ce fantastique chef d'orchestre qui évoluait à la même époque que Duke Ellington et toutes les grandes formations d'alors. Il y a finalement beaucoup d'artistes qui n'ont jamais eu la reconnaissance à laquelle ils pouvaient aspirer. Pour moi, ces gens-là représentent véritablement le point de départ de l'interprétation jazz au XXe siècle à l'échelle planétaire. Si vous y regardez de plus près, on pourrait déceler dans le blues de Robert Johnson ou dans le jazz de Jelly Roll Morton un swing qui a progressivement évolué. Jelly Roll Morton est né à la Nouvelle-Orléans, puis a voyagé à Chicago, New York, et a profité de l'influence de différentes cultures pour entamer sa mutation. De toute façon, la musique évolue toujours en fonction des voyages qu'entreprennent les artistes à travers le temps.
Having an exchange and all of a sudden an evolution of the music is starting to pass on as people travel, you know.
Le jazz a été créé aux États-Unis, mais il s'adresse au monde entier. Le jazz est le son de la communauté internationale à travers les yeux de la communauté afro-américaine. Tout ce qu'a enregistré Louis Armstrong exprime cette approche musicale particulière du peuple noir. Je le répète, Louis Armstrong est l'exemple parfait de ce sentiment impalpable qui identifie le jazz noir américain. Je reconnais que le mot jazz reste un terme mystérieux. Il a d'ailleurs longtemps été perçu comme un terme négatif, mais pour moi, il révèle une forme de jubilation que je ne peux traduire que par le mot « wow », ou si vous préférez, par cette interrogation « d'où vient cette musique ?» C'est ça le jazz pour moi.
Cats were swinging like you never heard before. Each one took a solo and the people cried for more. All at once the leader stopped and hollered to the band. Boys, I like your playing, but I just don't understand. What is this thing called swing? What is this thing called swing? Is it jazz or drag time? Futuristic ragtime. What is this thing called swing?
Qu'est-ce que le swing? What is this thing called swing? Chantait Louis Armstrong en 1939. Nous avons essayé de vous en décrire les racines en remontant 100 ans en arrière, mais nous pourrions pousser notre exploration encore plus loin, dans le blues rural des années 1880, quand les anciens esclaves africains devenus américains se retrouvaient dans les plantations de coton ou dans les juke joints, les clubs miteux du Mississippi, pour se donner du courage après de longues journées de labeur. Durant notre enquête au cœur de l'histoire afro-américaine, nous nous sommes dit qu'il y avait forcément un endroit, une institution, un organisme détenteur d'archives sonores centenaires. C'est à l'université du Mississippi, située dans la ville d'Oxford, que nous avons trouvé l'interlocuteur idéal. Il s'appelle Greg Johnson et passe ses journées à restaurer des documents parfois très anciens relatant l'histoire du peuple noir aux États-Unis.
Yeah, we can hear some of the majority of recorded blues. Unfortunately, for you, American copyright law prevents me from.
Nous pourrions en effet vous faire entendre quelques archives, mais en raison de la législation sur les droits d'auteur américains, vous ne pouvez diffuser que des œuvres enregistrées avant 1923 qui sont désormais dans le domaine public. Comme les premiers enregistrements de musiciens blues ont commencé en 1920, cela vous laisse une marge assez mince pour illustrer notre propos. Cependant, je pourrais peut-être vous faire écouter un titre de Mamie Smith, intitulé Crazy Blues, enregistré en 1920. Cette chanson est intéressante parce qu'elle illustre ce qu'on appelait la race music. L'industrie du disque utilisait ce terme pour parler des enregistrements réalisés par des Noirs. À l'époque, personne n'imaginait qu'il y avait un marché pour les artistes noirs. Et pourtant, ce disque a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Un album de blues pouvait atteindre des records de vente totalement inattendus, de 75 000 à 1 million d'exemplaires. En moyenne, 100 000 exemplaires d'un album de blues trouvaient acheteurs. Tout ça pour vous dire qu'après le succès de Mamie Smith, la musique africaine-américaine a représenté un marché discographique non négligeable. J'ai donc numérisé le titre de Mamie Smith que je vous propose d'écouter. Suivez-moi.
Follow me and I'll set that up. So I am looking through one of our servers that where we have.
Je suis donc en train de sélectionner sur l'un de nos serveurs le fichier audio de Mamie Smith.
I have that stored on one of our servers. So this is what I'm going to be pulling up is Mamie Smith's Crazy Blues recorded in 1920.
Voici Crazy Blues enregistré en 1920.
On a 78 RPM record, you can get about 3 minutes of audio per side.
Sur un 78 tours, vous ne pouviez enregistrer que 3 minutes de musique par face. Vous remarquerez que la fin de la chanson est plutôt abrupte. L'ingénieur du son n'avait pas d'autre choix que de dire « Ok, c'est bon, c'est dans la boîte ». Entre le blues de Mamie Smith et le jazz de Jelly Roll Morton, il n'y a finalement que la dénomination qui change. Tous ces pionniers n'avaient qu'une motivation, créer une forme d'expression qui les identifiait, qui revendiquait, certes encore timidement, leur statut d'Africain-Américain, porteur d'un message métis qui a gagné la planète tout entière au fil des décennies. Les années folles de Jelly Roll furent des années d'affirmation patrimoniale et peut-être la première étape d'une émancipation citoyenne qui se concrétisera avec le mouvement des droits civiques 40 ans plus tard et dont les effets continuent de se faire sentir à travers le slogan « Black Lives Matter » que l'Amérique de Donald Trump ne parviendra sûrement pas à faire taire. Armstrong en 1927 qui referme ainsi cette épopée au cœur des années 20 grâce au concours précieux des disques Frémo et Associés. Ce voyage dans le passé a été réalisé par l'intemporel Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.